Et nous revoilà, et cette fois, nous accueillons notre ami Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Alors, plusieurs sujets au menu de notre chronique, de notre conversation ce soir. Et on commence ça tout de suite parce que c'est devenu un peu le dossier du jour, là, des deux derniers jours, là, par rapport à l'aide financière qui est sollicitée par les équipes de la Ligue junior majeure du Québec. C'est une ligue que tu connais très bien, Ray. Comment réagis-tu au fait que le Québec impose ses conditions? Je sais pas si tu as entendu notre collègue Mme Charest, si tu veux rebondir là-dessus.
Oui.
Je t'écoute par rapport à ça.
Ben, c'était un excellent entretien avec la ministre Charest. Son point est très clair. T'sais, elle a de l'expérience dans le sport, elle connaît les enjeux, puis elle a pris une position qui est la position de l'avenir dans le sport et dans le hockey particulièrement, c'est-à-dire on doit s'en aller vers l'élimination des bagarres. Ça, c'est à mon avis, là, il n'y a pas personne que j'ai entendu publiquement aller à l'encontre de cette philosophie-là, Mario, puis de dire que oui, les bagarres devraient demeurer et rester en place, surtout avec des jeunes de moins de 20 ans qui ont une vie devant eux, une carrière possible, des études, atteindre le marché du travail, fonder une famille et vivre en bonne santé. Il y a d'énormes risques physiques de santé pour ces jeunes-là. Mario, il y a des enjeux dans tous les sens. Tu sais, il y a un impact sur la business des équipes, les affaires, parce que certaines équipes vont dire que ça aide encore à vendre des billets. Et dans certains marchés, c'est possible que les gens, parce qu'on l'a tous fait à un moment donné, se lèvent encore pour voir un combat. Particulièrement dans la Ligue nationale, bien sûr, parce que c'était des hommes, un peu moins dans le hockey junior, mais je peux retourner dans les années 70 et 80, le hockey junior québécois qui fournissait de grands joueurs, de Guy Lafleur à Mike Bossy, à Pat Lafontaine, à Dale Hawerchuk, à Denis Savard, à Mario Lemieux, bien entendu, jusqu'à Sidney Crosby. Écoute, dans ces années-là, la bagarre dans le hockey junior, ça remplissait les gradins. Et il y avait de l'intensité, puis il y avait des attentes. Puis chaque équipe avait 2-3 joueurs de haut niveau. Les équipes de Michel Bergeron à Trois-Rivières, où j'étais, dans les années 70, excellente équipe, avec des joueurs comme Jean-François Sauvé, puis Pierre Lacroix, puis Normand Rochefort. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle communément des goons, tu sais, qui étaient là pour défendre Daniel Saint-Laurent, tu comprends-tu? Il y avait Jean-Pierre Petit, tu sais, qui faisaient leur travail, puis Maxime Lapierre l'a dit, c'est ingrat, ces joueurs-là avaient leur place, le hockey se jouait de cette façon-là, mais c'est plus comme ça.
Ça vend-tu encore, la bagarre?
Je pense pas. Non. Je pense pas personnellement. Je pense pas que ça a un gros effet.
Mais de toute façon, là, ils sont capables de remplir le Colisée de Québec ou le vieux Colisée ou le centre Vidéotron avec des finales de tournois Pee-Wee avec des grillages dans le visage. Fait qu'honnêtement, je pense que les gens qui trouvent encore, puis je respecte tous les auditeurs qui m'ont écrit dans mes courriels, puis je vois vos répliques, mais c'est d'une autre époque. C'est d'une autre époque. Qu'est-ce que tu veux? La société s'est adoucie. Je sais pas si ça va être de même dans 50 ans. Peut-être qu'il va y avoir un retour en force des barbares, là.
Mais Mario, c'est un bon point. Le mot adouci. C'est vrai parce que on n'est plus informé. On est muni de plus de science pour guider nos choix, nos décisions. Et ça a été effectivement prouvé. Tu parlais du documentaire avec Jérémy que TSN a diffusé hier soir. Ben, les antidouleurs, là, ça vient d'où? Ça vient de l'usure, du combat de guerriers, ça vient des blessures dures, puis on a besoin que les joueurs se retrouvent rapidement en condition pour jouer puis pour aider leur équipe.
Et plusieurs d'entre eux se battaient aussi, là, tu sais, les Mountaindor, les Bogard, puis des gars
qui... Il y a un sacrifice physique, Mario, là, qui ne peut pas être calculé à moins d'avoir joué des sports de contact à haut niveau. Puis j'inclus les sports de combat et tout ça. Moi, j'ai joué au football universitaire. Puis Dieu sait que c'était dur, puis physiquement pénible. Et tu te faisais frapper, surtout quand tu avais le ballon, en particulier. Parce que là, tu étais la cible, tu ne peux pas te défendre. Alors, je peux parler à savoir qu'au football, les blessures à la tête sont très graves. Mario, on en a parlé régulièrement. Et au hockey, ben, des coups de poing sur le nez, sur la tête, on enlève des casques, on a les mains nues. Mario, ça laisse des séquelles, forcément.
Bien sûr. Alors, et je te ramène à l'aspect business, là. Les équipes demandent 20 millions de dollars. La Ligue canadienne de football, je pense, dans sa dernière demande, en demandait 35. Ils ne l'ont pas eu. Est-ce que 20 millions de dollars pour des équipes québécoises, il y en a 6 dans les maritimes, tu trouves que c'est trop? Est-ce que c'est-tu raisonnable? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cet argent-là? Est-ce que, au-delà des conditions bagarre, pas bagarre, là, je veux dire, est-ce que tout le monde gère bien sa business? Parce que Je veux dire, ben, pour avoir de l'aide, il faut que tu gères bien ta business pour ensuite être contraint à dire, OK, là, j'ai vraiment besoin d'aide.
Je vais d'abord dire que il faut d'abord bien gérer sa business. Il faut d'abord optimiser, maximiser toutes les opportunités commerciales possibles. C'est une business, le hockey junior majeur. On vend des billets, on vend des loges, on vend de la commandite partout. On génère des dollars. Il y a des propriétaires qui réussissent mieux que d'autres. Il y a des employés payés. Il y a des joueurs qui... Il y a un coût de joueur, là, c'est moindre, c'est pas grand-chose, mais on paye l'équipement, on paye les autobus, on paye les voyages, on paye les hôtels, on paye les familles d'accueil, on paye plein de choses. Donc, il faut en générer des revenus. Fait que même si c'est considéré comme du sport amateur, et effectivement, comme Mme la ministre l'a dit, ce sont des joueurs en développement dans notre sport national, il faut investir, bien sûr. Mais, Mario, je suis pas vraiment en faveur de dépanner des organisations qui ne produisent pas les meilleurs résultats. Puis je parle pas de hockey junior, je parle dans l'ensemble du sport. Puis, si tu regardes l'historique de la Ligue canadienne de football, ça a été des années difficiles là, pour plusieurs équipes depuis 5-6 ans facilement. Là. Et dans le hockey junior, il y a des équipes qui réussissent à merveille. Il y en a au Québec d'excellents marchés. Je pense à Chicoutimi, Sherbrooke, Rimouski, entre autres, qui sont bien gérés, qui sont serrés, qui innovent et qui créent et qui trouvent des façons de toujours bien réussir. Il y a des équipes qui c'est plus souffrant. Elle l'a mentionné aussi. Elle pense au Drakkar de Bécomo. Mm-hmm. Écoute, quand je pense à Bécomo puis à Bathurst, ce sont deux marchés là, avec des capacités de spectateurs dans l'aréna locale de peut-être 2500. Puis, ce sont des marchés de moins de 25 000 personnes. C'est pas facile de réussir à Bathurst ou à Bécomo quand tu te compares aux Remparts de Québec ou aux Moussettes d'Halifax. Tu sais, des marchés d'un million.
Non, c'est pas les mêmes réalités partout. Puis il y a des équipes qui ont plus besoin des accords municipaux que les autres. Puis même dans les gros marchés, on veut avoir le même type d'entente parce que dans le fond, si on peut dégager un petit peu de revenus,
tant mieux.
Je comprends.
Fait que le chiffre de 20 millions, c'est juste. Tu sais, ça donnerait quoi dans la Ligue? 12 équipes québécoises, 6 des maritimes. Mettons que tu gardais ça, le 20 millions, uniquement pour les équipes québécoises. Probablement que ça va être le cas. Ça te fait 1,5 million par équipe. Tu as un petit peu besoin d'argent pour la Ligue aussi. Je comprends, il n'y a presque pas de revenus cette année. Ils dépendent beaucoup des ventes de billets, eux aussi. Mais je pense qu'il faut forcer les organisations à mieux faire. Il faut que les organisations réussissent à se
qu'on rende ça conditionnel à sanctionner davantage les bagarres. Toi, Ray, t'en as parlé ce matin avec Paul et Alain. T'étais pas...
Moi, j'éliminerais ça demain matin.
Non, mais ce que je veux dire, que le gouvernement impose ça comme exigence... Tu penses que le gouvernement n'a pas d'affaires à interférer dans les règles d'un sport?
Non, parce que ça, je pense que la mention, la discussion, le dialogue, la recommandation, l'expertise, ça fait toute partie d'un échange puis d'une collaboration.
Mais c'était plus nuanceux ce soir dans le discours de la ministre. Je ne sais pas si tu as trouvé ça. Je n'ai pas l'impression que c'était ça ou pas en tout.
Non.
Je pense que c'est plus nuancé que ça. Mais...
Oui, puis je pense que ça n'avait même pas l'air aussi exigeant, tu sais. Comme entente, là, d'augmenter les pénalités puis d'augmenter les sanctions.
Non.
Mais Mario, ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement, à mon avis, ne devrait pas utiliser un levier qui s'appelle de l'argent en échange de faveur, pas de faveur, mais tu sais, de compromis. Le hockey junior majeur doit le faire eux-mêmes.
Ben,
je suis d'accord
oui.
avec tout ce qu'elle dit sur le fait que les bagarres, ça n'a pas sa place.
Mais tu voudrais que ça vienne autrement.
Ben oui, il faut que ça vienne des équipes puis de la Ligue puis la direction. Puis comme Guillaume et Maxime l'ont dit, il faut que ça vienne de Hockey Canada. Il faut que ça vienne de la Canadian Hockey League, c'est-à-dire la Ligue de hockey canadienne, où il y a maintenant un président, Dan McKenzie, qui gère les trois commissaires de Ligue dans l'Ouest, dans l'Ontario puis au Québec. Puis en plus, je te dirais, je ramène ça encore plus loin, Mario, Gary Bettman. Il faut Gary Bettman, qui est le pape du hockey, comme chef d'office de la plus importante ligue de hockey au monde.
C'est pas lui qui va le faire.
Non, mais c'est
sa responsabilité. Lui, il va profiter des décisions qu'on va prendre en bas de lui.
Oui.
Parce que lui, il va cueillir le fruit mûr des jeunes qui auront été formés dans un environnement différent.
Je suis obligé, écoute, puis j'ai beaucoup de respect pour Gary Bettman, que je connais personnellement, puis j'ai beaucoup de respect pour son succès à rebâtir la business du hockey en 25 ans, 26 ans comme commissaire. Mais là-dessus, là... pas du tout en accord. C'est lui qu'il faut qu'il tranche. Puis je te dirais qu'il n'y aurait même pas d'hésitation si on mettait la même décision dans les mains d'un gars comme Adam Silver avec la NBA. Et pourtant, ce sont deux ligues qui fonctionnent en parallèle, deux sports différents. Mais le type de leadership avec un gant de fer dans la NBA, ça existe. Il faudrait que ça existe au hockey aussi.
Alors, puisque tu parles de la NBA, permets-moi de poursuivre avec la NBA rapidement là-dessus, là, parce que c'est pas sexy bien bien. Et la Ligue nationale de hockey, NBA qui repartirait pas avant janvier. On veut éventuellement jouer devant des partisans. C'était le hockey, tu veux-tu jouer avant la NBA, profiter d'une espèce de vide dans la télévision sportive? Comment tu vois ça sommairement là, dans ces deux ligues-là, sur ce point-là bien précis, Ray?
C'est un point intéressant, Mario, mais je pense pas que ça compte pour beaucoup parce que les deux sont tributaires de la pandémie. Les deux jouent dans les mêmes amphithéâtres. Les deux ont décidé de jouer 82 matchs. Fait que le hockey commence deux semaines avant ou non, c'est certain que c'est mieux d'être là quand il y a moins de trafic. Mais on va être en plein cœur, en début janvier, là, du début des séries de la NFL. Et encore une fois, la NFL prend énormément d'espace dans le marché sportif américain. Les autres ligues ont toujours hâte que la NFL termine en début février pour ensuite respirer. Mais cette année, de toute façon, c'est une année, encore une fois, 2020-21, qui va être bouleversée, qui va être difficile à prédire. Puis je pense que c'est optimiste et ambitieux de penser à 82 matchs, commencer début janvier. Mais tu ne te laisses pas beaucoup de temps pour compléter une saison. À moins que tu veuilles te retrouver encore une fois au mois d'août et septembre prochain.
C'est pas l'idée.
Ben non. Et de reprendre une fois encore en décembre. Mario, mais encore une fois, ce sont des décisions qui sont motivées par les finances et l'économie. Puis si c'est le seul choix que le hockey ou le basketball a, en termes de commencer en janvier, parce qu'on pourrait peut-être mettre des spectateurs dans les gradins, ou même, Mario, pour la deuxième phase de la saison, tu sais, en avril ou en mai, ben ça, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que Dieu sait que les recettes de vente aux billets, de billets au guichet sont très importantes.
Quand on veut, comme quelqu'un m'a déjà dit, « When there's a will, there's a way », dans la NFL, on a décidé que le masque, on allait respecter le port du masque, mais c'est une vraie joke d'une certaine façon. Pas la politique ou la façon dont l'appliquer de la NFL, mais les comportements des individus. Je sais pas si tu as regardé du football tout comme moi en fin de semaine.
Oui.
Les coachs regardent toujours, à un moment donné, tu les vois se lever les yeux au ciel. Là, tu devines qu'ils regardent l'écran géant. Là, ils se voient la face en gros plan sur l'écran géant, puis là, ils remontent le masque. Puis il y en a qui en font même pas de cas. Ils laissent leur masque débarquer comme Gruden le fait, comme Pete Carroll avec Seattle. Mais je vais te dire une affaire. Là, on a imposé des amendes sévères. Faire bien vite là-dessus. C'est quoi, politiquement, dans tout le débat des masques, port du masque aux États-Unis, qu'est-ce que la NFL envoie comme message? Comment tu apprécies ça?
Je pense que c'est une excellente décision pour eux d'agir sévèrement, de pénaliser ces gens-là. On parle quand même d'entraîneurs chevronnés, là, John Gruden des Raiders, Sean Payton des Saints, mais il y avait aussi eu Pete Carroll, Kyle Shanahan, puis Vic Fangio, le moins connu de ce groupe-là. Mais 100 000 $ chacun, 250 000 à leur propriétaire d'équipe. Ça va se régler, ça, je te garantis. Puis la raison pourquoi, Mario, ce qui est important, c'est qu'il y a un engagement de la part de la NFL de suivre les règles. Parce que pour pouvoir accueillir des gens localement, ils ont eu des autorisations. Et tout le monde doit suivre les règles. Il n'y en a pas d'espace de manœuvre. Il n'y a pas de place pour des gros égos qui disent que moi, je vais enlever parce que ça communique mieux. Bien sûr que ça communique mieux sans masque. Mais de là à le faire parce que la caméra est sur eux, ils s'imaginent que personne ne les a vus. Non, mais c'était un peu ridicule ce que j'ai vu lundi soir là, entre ces deux équipes-là, Saints et Raiders. J'applaudis la NFL, puis ils devraient continuer dans cette veine-là. Puis j'ai l'impression que les entraîneurs vont collaborer.
Maintenant, dans une autre ligue, en fait, on aime ça se promener d'une ligue à l'autre dans le sport professionnel. Et on voulait aussi parler du baseball majeur. Ray, juste avant, parle-moi de NASCAR et de Michael Jordan, parce que tout le monde a entendu parler un peu de la nouvelle. On sait qu'il y avait un seul pilote noir dans le NASCAR au cours des dernières campagnes. Il a perdu son volant. C'est tout un signal puis un symbole que Jordan mette les pieds à terre avec un vieil ami qui le commanditait dans le temps et débarque en NASCAR en réembauchant Bubba Wallace.
Oui, Bubba Wallace. Ben, y a deux choses que je veux dire là-dessus. D'abord, rajouter Michael Jordan dans une écurie quelconque de n'importe quelle discipline sportive, c'est très prestigieux. Ça va donner plus d'importance à la NASCAR. La NASCAR, depuis quelques années, c'est plus difficile, Mario. Les foules sont en baisse, il y a moins de popularité, ils se sont pas modernisés au fil des ans. Alors, puis il y a de la compétition sportive. Je dis pas ça parce que la Formule 1 fait des efforts pour se pénétrer dans le marché américain, c'est que il y a eu un vieillissement. Puis la base de partisans qui aiment NASCAR sont généralement un peu plus âgés, un peu plus ruraux, un peu plus blanc et un peu plus conservateur.
Je pensais que tu allais dire républicain.
Ce serait ma prochaine qualification, tu comprends-tu? Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont besoin d'aller chercher une clientèle plus jeune. Bubba Wallace, c'est un jeune pilote. Il n'a rien gagné encore. Je pense qu'il a 105 courses à son actif, mais il a du potentiel. Mais Denny Hamlin, qui est l'ami de Jordan, qui est encore un pilote dans NASCAR, qui pourrait encore une fois remporter le titre, bien c'est lui et la relation avec Jordan, parce que lui, il veut faire une transition pour devenir un propriétaire d'écurie.
Oui.
Alors, de cette façon, ils ont pris un volant qui est garanti pour l'an prochain, une équipe à un seul volant, ça va être Bubba Wallace qui va conduire, puis Jordan, qui est originaire de la Caroline du Nord, à ses débuts là, dans l'école secondaire, bien, c'est un bastion, un château fort de la NASCAR, puis de la course automobile en stock car. Alors, lui-même appréciait ce sport-là lorsqu'il était jeune. Et je pense que c'est encore une fois une excellente nouvelle que quelqu'un vienne aider à diversifier l'attention autour d'un sport, d'un produit comme le NASCAR. Ils vont en profiter, puis Jordan a toutes sortes de moyens, y compris Nike, puis le Jordan Brand. Mario, il y a plein de facteurs qui sont des intangibles qui peuvent être très positifs pour NASCAR.
J'ai évoqué un peu de politique dans tes derniers commentaires, mais j'ai envie juste de rebondir là-dessus. Ray, dis-moi, est-ce que les campagnes présidentielles Trump-Biden tentent de courtiser l'électorat sportif? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on...
Absolument, Mario. La semaine dernière seulement, là, il y avait eu, en termes de dépenses...
1-0 Tampa, excuse-moi. 1-0 Tampa, mais poursuis ta réponse.
En termes de dépenses publicitaires sur les plateformes nationales, Biden avait dépensé 7,1 millions dans une période allant jusqu'à la semaine dernière, et Trump 1,2 millions. Trump a dépensé sur la NFL et sur NASCAR, mais limité dans le cas de la NFL. Biden, la première semaine d'action dans la NFL, il a dépensé dans 24 marchés. Fait que lui, il triple la mise, il quadruple la mise de Trump. Et en plus, il investit dans la NBA. Chose que Trump refuse de faire parce que Trump est persuadé que la NBA, c'est une mauvaise ligue. Tandis que Biden voit la NBA comme étant l'accès aux jeunes. Alors, tu vois comment stratégiquement, ces gars-là ont... Bon, Trump a 325 millions dans ses coffres, puis je pense que Biden en a 477. Ils ont de l'argent à dépenser, là, puis les élections sont dans 6 semaines. Tout ça pour dire que c'est très stratégique. Puis je vais te dire la chose qui n'a pas été mentionnée encore, c'est qu'avec le retour du Big Ten au football, Big Ten, là, ça symbolise le Midwest américain. Et ce sont des États qu'on appelle en anglais « swing state ». Et c'est ça qui a fait pencher la balance en faveur de Trump en 2016 versus Hillary Clinton. Et les États du Minnesota, du Wisconsin, de l'Ohio, du Michigan et de la Pennsylvanie, ben, sont les États du Big Ten. Fait que quand ces matchs-là vont commencer à être diffusés, tu peux t'attendre à avoir un gros investissement de la part des deux candidats parce qu'ils veulent justement faire balancer ce vote électoral-là en leur faveur.
On va les cibler dans les 5 prochaines. Juste quelques mots sur Notre Dame qui a annulé un match en fin de semaine des cas de COVID dans le football universitaire.
Ouais, écoute, Wake Forest contre Notre Dame, deux équipes de la ACC qui devaient s'affronter. Tu sais, on repart la machine dans le football universitaire, surtout avec le retour du Big Ten à la fin octobre. Et là, soudainement, on est en milieu d'une semaine, quelques cas. Et là, Notre-Dame, Wake Forest, annulé. Ça, c'était dans 3-4 jours. Alors, c'est pour te dire comment c'est fragile, comment d'une journée à l'autre, les organisations sportives doivent être capables de s'ajuster. Tu vas avoir des matchs annulés, comme au baseball, lorsqu'ils ont perdu les Marlins et les Cards en début du calendrier. Mm-hmm. Bien, il va y avoir des situations comme ça, Mario. De toute façon, les règles sont très claires. Quand le Big Ten va revenir, par exemple, s'il y a 5 joueurs dans une équipe qui est atteinte positivement, l'équipe ne joue pas pendant 2 semaines. Si tu as un joueur qui est atteint positivement, c'est 3 semaines d'absence maintenue sans exception. Alors, ça va être difficile pour tout le monde de bien gérer la contamination.
Dernière minute de jeu dans notre chronique, mon cher Ray. Dis-moi donc, raconte-moi un peu, c'est quoi la politique d'utilisation des chandails des équipes de la NBA? On parle de 4 chandails par équipe, puis on a trouvé en temps de pandémie là, une façon de générer de nouveaux revenus?
Oui, bien, ça date de 2017, Mario. Parce que Adidas avait l'entente jusqu'en 2017, puis c'est Nike qui a pris le contrôle, puis ils ont éliminé, littéralement, là, le mot « chandail à domicile »,« chandail à l'extérieur sur la route ». Ça n'existe plus. Autrefois, c'était blanc à domicile et couleur foncée sur la route. Aujourd'hui, c'est une rotation qui est établie par la Ligue. 82 matchs, la Ligue sort un calendrier, envoie ça aux gérants d'équipement, et les équipes suivent le calendrier. Il y a 4 types de chandail, Mario, qui ont un thème. Le thème « association », « icône », Statement, puis City. Alors, un thème plus urbain, si on veut. Puis, les 30 chandails des équipes ont des couleurs selon le thème.
Oui.
Alors, on met toujours face à face deux équipes qui joueraient, par exemple, avec le chandail City. Ça explique aussi pourquoi on voit les Raptors, par exemple, avec le chandail des dinosaures de l'époque, ou le rouge avec le mot North dessus, tu comprends-tu? Ou le Raptors en noir ou en blanc. Alors, c'est toujours comme ça que ça se fait, et ça l'a mis fin, puis c'était une excellente initiative d'éliminer les chandails à domicile, puis comme ça, les partisans en ont toujours plus d'argent. Et Mario, on vend quatre fois plus de chandails.
Et évidemment que la Ligue est contente. Belle initiative, Ray. Merci beaucoup de toutes ces explications et commentaires. C'est très apprécié. Bonne fin de soirée. Bon match de hockey. Excuse-moi de t'avoir coupé tantôt. J'ai le but.
Pas de problème, Mario. Toujours un plaisir.